VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Michel Joseph. Au sommaire, en ce mercredi 6 mai 2015.
Après sa visite inattendue en Somalie, le secrétaire d'État John Kerry achève aujourd'hui à Djibouti son voyage en Afrique de l'Est.
C'est la première fois qu'un officiel de ce niveau-là arrive en Somalie. C'est un signe de solidarité avec le gouvernement et le peuple somalien contre les violences, surtout après ce qui s'est passé au Kenya il y a quelques semaines.
Le professeur Walid Fares de la National Defense University de Washington évoquera la tournée de M. Kerry.
Situation très tendue dans le nord du Mali où des rebelles ont attaqué mardi le cercle de Tenekoun dans la région de Mopti.
Le chef de la tribu Kel Antassar est en colère. Il ne comprend pas pourquoi les rebelles s'attaquent aux populations du cercle de Goundam.
Notre correspondant Kassim Traoré nous en dira davantage.
Et la nouvelle ministre de la Justice des États-Unis à Baltimore pour rencontrer la famille du jeune noir décédé en avril après son interpellation par la police.
Finalement, Hillary Clinton, candidate démocrate à la présidentielle de 2016 aux États-Unis, appelle à la réforme de l'immigration. Mais tout d'abord, le journal. Au Burundi, la Cour constitutionnelle a validé la candidature du chef de l'État Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Le renouvellement du mandat présidentiel pour 5 ans au suffrage universel direct n'est pas contraire à la constitution du Burundi, a déclaré la Cour dans un communiqué. Le vice-président a refusé de signer et a fui le pays, dénonçant d'énormes pressions.
En Centrafrique, la coordination des 22 partis politiques au Forum de Bangui, que dirige Joseph Bendunga, s'insurge contre le fait que le Présidium n'ait pas donné l'occasion aux leaders politiques de s'exprimer librement, alors que la crise centrafricaine est hautement politique.
Par conséquent, ces leaders politiques menacent de se retirer des assises. On écoute Joseph Bendunga, qui était joint par Félix Yepasis Zembrou.
Cette crise est hautement politique, mais les partis politiques ne peuvent pas être les dindons de la farce pour que le présidium du forum puisse leur refuser de s'exprimer. Les plateformes des confessions religieuses se sont exprimées 2 fois. Les femmes, la jeunesse, tout ça ont eu à intervenir. Or, les acteurs politiques qui, dès que ce forum-là cessera, iront aux élections, ce sera l'un de ces acteurs politiques-là qui sera président de la République élu, qui aura la légitimité de conduire le peuple centrafricain à un avenir meilleur. Malheureusement, force est de constater que les partis politiques sont relégués au second plan. On nous donne l'exemple du Rwanda. La République centrafricaine n'est pas le Rwanda. Le cas centrafricain est typique. Qu'on laisse la parole aux centrafricains s'exprimer librement afin que de cette expression libre émanant du fond de leur cœur puisse jaillir la flamme de l'espoir, l'avenir de la République centrafricaine, afin qu'on puisse aller à des élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et démocratiques.
Joseph Bendunga, président de la coordination des partis politiques au Forum de Bangui.
2 soldats de la paix tanzanien des Nations Unies ont été tués dans une embuscade mardi dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon Reuters, qui cite la MONUSCO, les casques bleus se trouvaient dans un secteur de combat entre les forces gouvernementales et les rebelles ougandais.
Toujours selon la mission de stabilisation de l'ONU en RDC, les militaires ont été attaqués dans le village de Kikiki, situé à une 50aine de kilomètres au nord de Beni, dans la province du Nord Kivu. Félix Paz, porte-parole de la MONUSCO, a également signalé 2 blessés.
Au Cameroun, nouveau rebondissement dans le procès de Jean-Marie Atangana Mebara. Cet ancien proche du président Paul Biya a laissé entendre que son arrestation et emprisonnement depuis environ 7 ans sont politiquement motivés. Des précisions avec Chérubin Dorsil.
Selon la justice camerounaise, Jean-Marie Atangana aurait détourné 6 millions de dollars dans le cadre d'un projet d'achat d'un avion présidentiel. L'ancien secrétaire général à la présidence, en prison depuis 2008, était au tribunal hier pour la reprise de son procès qui comporte plusieurs phases. C'est alors qu'il a déclaré, selon l'AFP, qu'il est soupçonné d'avoir voulu prendre le pouvoir à Paul Biya. Il n'a pas fourni de précision, mais la presse locale a fait état d'un groupe qui se préparait à défier le chef de l'État lors de la présidentielle de 2011. Les membres de ce groupe, avancent les mêmes sources, ont été arrêtés et emprisonnés sous accusation de corruption. La saga de Jean-Marie Atangana a vu d'abord son acquittement en première instance, puis sa condamnation à 15 ans de prison en appel. Il s'est pourvu en cassation et le cas a donc été programmé pour 2015. Condamné à 20 ans de prison dans un autre aspect du dossier de l'avion présidentiel, l'accusé fait aujourd'hui l'objet d'un troisième volet où d'autres anciens responsables proches du pouvoir ont d'ailleurs déjà reçu jusqu'à 25 ans d'emprisonnement.
Au Mali, un soldat et 6 rebelles ont été tués dans des combats à Tenenkou, dans le centre du pays. Le point avec Morgan Guerrier.
L'état-major de l'armée à Mopti, le chef-lieu de la région, a annoncé ce bilan, ajoutant contrôler totalement la situation sur le terrain. La coordination des mouvements de l'Azawad, rébellion à dominante Touareg, a confirmé la fin des combats, assurant de son côté que les rebelles avaient infligé des pertes à l'ennemi. Les assaillants seraient venus par la route menant à Léré, près de la frontière mauritanienne, où des combats le 29 avril, on fait près de 20 morts, 9 militaires et 10 rebelles, selon le ministère de la Défense. En visite à Alger, le ministre malien de la Réconciliation nationale, Zahabi Oud Sidi Mohamed, a minimisé ces violations du cessez-le-feu, estimant qu'elles ne remettraient pas en cause la signature d'un accord de paix prévu le 15 mai à Bamako. Dans un bref communiqué, dans l'après-midi, la CMA a de nouveau invoqué la légitime défense contre les forces armées maliennes et leurs milices affiliées.
Au Niger, les élèves des collèges et lycées de Niamey ont entamé hier une grève de 2 jours pour réclamer des vaccins contre l'épidémie de méningite. Des précisions avec Eddy Issango.
Ousseini Abdou Seini, secrétaire général de la section lycée-collège de l'Union des scolaires du Niger, a annoncé que les cours sont suspendus dans tous les établissements secondaires pour interpeller les gouvernements afin qu'ils vaccinent tous les élèves contre les ravages de la méningite. De nombreux lycées et collèges étaient fermés hier dans la capitale et la grogne des élèves doit durer 48 heures. Les élèves menacent d'arrêter définitivement les cours si la vaccination ne démarre pas d'ici la fin de la semaine. Quelques 300 000 doses de vaccins sont arrivées dans les pays et sont en cours de distribution alors que plus du double a été commandé. Depuis janvier, l'épidémie a fait 252 morts sur 3300 cas recensés dans le pays. Très contagieuse, la méningite se manifeste par une montée brutale des températures, des violents maux de tête, des vomissements et une raideur du cou.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué mardi une visite surprise en Somalie. Lors d'une escale à l'aéroport de Mogadiscio, il a rencontré le président Hassan Sheikh Mohamud, le premier ministre et divers autres hauts responsables du gouvernement. Et il s'est ensuite rendu à Djibouti.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis prêts à payer cher des informations sur 4 hauts responsables de l'État islamique. Ils ont offert jusqu'à 20 millions de dollars pour tout renseignement menant à leur capture. Il s'agit d'Abu Mohamed al-Adnani, le principal porte-parole du groupe, et d'Abn al-Rahman Mustafa al-Kradouli, ancien responsable de l'État islamique.
Également recherché, Tarkan Tayumurazovic, Batira Ashvili, qui aurait supervisé une prison où on peut être détenu des otages occidentaux, et Tariq Ben Al-Tahar, Ben Al-Faleh Al-Aouni Al-Arzi, dont le rôle serait de lever des fonds pour l'État islamique. L'argent est offert dans le cadre du programme Reward for Justice, récompense contre justice du département d'État américain.
La nouvelle ministre américaine de la Justice, Loretta Lynch, a rencontré mardi la famille de Freddie Gray, le jeune noir décédé en avril après son interpellation par la police de Baltimore dans le Maryland. Baltimore a été le théâtre de violences et de pillages qui ont éclaté peu après les obsèques de Gray.
Madame Lynch s'est engagée à soutenir la réforme de la police de la ville. Elle a dit que le département de la justice cherchera à trouver de vraies solutions pour améliorer les conditions de vie à Baltimore. Tel est notre engagement, a-t-elle souligné.
Les États-Unis doivent prendre les mesures nécessaires pour régulariser et naturaliser une partie des millions de sans-papiers du pays. C'est ce qu'a déclaré mardi la candidate démocrate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, lors d'un déplacement de campagne à Las Vegas.
Tout projet de loi en ce sens devrait inclure une voie vers la citoyenneté pleine et entière, a déclaré Mme Clinton. Elle a remarqué qu'aucun candidat républicain, déclaré ou potentiel, à la présidentielle de 2016, ne soutient clairement une voie vers la citoyenneté.
L'Union européenne a annoncé mardi la reprise des pourparlers sur le nucléaire iranien à Vienne, en Autriche. La négociatrice de l'UE et les ministres adjoints iraniens des Affaires étrangères reprendront leur travail le 12 mai à Vienne. Ils seront ensuite rejoints le 15 mai par les directeurs politiques des autres grandes puissances, précise le service diplomatique de l'UE.
Et maintenant, la Minute Éco avec Félix Yepasis Zembrou. Bonjour.
La compagnie marocaine Platinum Power veut construire 3 barrages en Côte d'Ivoire, selon l'agence Reuters. Filiale du groupe américain Brookstone Partners, Platinum Power compte investir plus de 450 milliards de francs CFA, environ 750 millions de dollars, dans la construction de ces barrages. Un premier de 100 MW sera construit sur le Bafing, l'un des affluents du fleuve Sassandra. Sur ce dernier cours d'eau, un deuxième barrage d'une capacité de 110 MW devrait être également bâti. L'emplacement du troisième barrage n'a, quant à lui, pas encore été communiqué. Les villes d'Accra au Ghana, de Kinondoni en Tanzanie et de Praia au Cap-Vert remportent les premiers trophées des maires africains Roger Eduardo dos Santos. Ces trophées récompensent le leadership et la contribution des maires de grandes, moyennes et petites villes et rendent hommage au succès et à l'excellence du développement urbain en Afrique. Les villes gagnantes recevront une enveloppe de 350 000 dollars qui sera utilisée pour des initiatives spécifiques. La zone euro va profiter cette année d'une embellie économique. Elle va engranger une croissance légèrement meilleure que prévu. La croissance devrait atteindre 1,5% cette année contre 1,3% selon les précédentes prévisions publiées en février.
On enchaîne avec les sports. Présentation Bagassi Koura. Bonjour.
Oui, bonjour Camille.
Football africain d'abord, avec le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions.
Le groupe B rassemblera les 3 clubs algériens encore en course, à savoir l'AS Sétif, l'USM Alger, le MCL Ulm, ainsi qu'El Merrek du Soudan. Dans le groupe A, le TP Mazembe devra se méfier du Maghreb Tétouan, Tomber d'Al Ahly, de la puissance montante El Hilal et du petit poussé égyptien de Soumoua, qui a sorti l'AS Léopard de Dolizé.
La CAF a procédé mardi au Caire au tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération avec l'entrée des équipes reversées de la Ligue des Champions.
Oui, on relève des chocs Al Ahly Club Africain et Raja Casablanca contre l'AS Sahel. L'AS Tunis de Tunisie affronte le Hearts of Oak du Ghana, l'AS Léopard de Dolizé du Congo donc joue contre les Wari Wolves du Nigeria. Le CS Faxien de Tunisie affronte l'ASEC Mimosa d'Abidjan. Le Stade Malien joue contre l'AS Vita Club de la RDC. L'AS Kaloum de Guinée affronte les Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Et le Sanga Balende de la RDC affronte le Zamalek d'Égypte.
Football européen à présent avec les demi-finales allées de la Ligue des Champions.
Oui, la Juventus a battu le Real Madrid de 2-1. Les buts turinois ont été inscrits par Morata à la 8e minute et Tevez à la 58e minute sur pénalty. Le but madrilène par Cristiano Ronaldo à la 27e minute. Ce soir, le choc à Barcelone entre le Barça et le Bayern Munich. Et pour terminer, Camille, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
En demi-finale du championnat nord-américain de basketball, un match d'abord très serré mardi soir entre les Wizards de Washington et les Hawks d'Atlanta. Mais en fin de compte, les Wizards ont cédé face à la détermination d'Atlanta et ont concédé la partie 106-90. Et puis les Grizzlies de Memphis ont battu les Golden State Warriors 97-90. Voilà pour les nouvelles.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Camille Grodidier avec vous pour présenter les dossiers du jour. On se tourne vers le Burundi où la Cour constitutionnelle a validé la candidature du chef de l'État Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Le vice-président a refusé de signer et il a pris la fuite, dénonçant d'énormes pressions. Idriss Fall a joint à Bujumbura Charles Ndagi Djimana, président de la Cour constitutionnelle du Burundi.
Tout d'abord, la Cour n'a pas été saisie d'une question relative à la candidature. Elle a plutôt été saisie d'une interprétation des articles 96 et 302 de la Constitution. Nous avons interprété les dispositions de la Constitution qui nous avaient été soumises, donc l'article 96 et 302.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
Comme l'a dit la Cour, ça veut dire que les mandats qui sont prévus au niveau de l'article 96 n'ont rien à voir avec le mandat qu'on retrouve à l'article 62.
Quelle est la différence donc? C'est parce qu'il n'a pas été élu au suffrage universel direct?
Non, c'est pas ça. La différence, c'est que l'interprétation qu'a donnée la Cour constitutionnelle, c'est que l'article 302 instituait un mandat spécial qui était tout à fait différent des mandats qui sont prévus à l'article 96.
Mais apparemment, les accords d'Arusha disaient que le président n'a droit qu'à deux mandats.
Alors, je vous recommande de lire tout l'arrêt de la Cour, parce que la Cour est revenue longuement sur les accords d'Arusha. Elle a expliqué que, évidemment, les accords d'Arusha, l'esprit et la lettre des accords d'Arusha étaient de mettre sur place deux mandats seulement, que personne ne pouvait faire plus de deux mandats. Et ça a été reconnu dans l'arrêt de la Cour. Et la Cour a constaté que le constituant avait mal repris les accords d'Arusha et en instaurant un autre mandat qui n'était pas prévu par les accords d'Arusha.
Et que dit la constitution du Burundi alors sur la limitation des mandats?
Je vous renvoie toujours à l'article 87 qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et alors, à côté de ça, nous avons un autre article qui se trouve au niveau du titre relatif aux dispositions exceptionnelles relatives à la première période de post-transition qui, aux yeux de la Cour, crée un mandat spécial qui est détaché de l'article 96.
Dans l'arrêt que vous avez publié, il y a la signature de votre vice-président, mais il avait déjà pris la fuite vers le Rwanda.
Il n'y a pas de signature de mon vice-président. Mon vice-président n'a pas signé l'arrêt, bien qu'il a participé au délibéré de la Cour, il n'a pas signé. Donc l'arrêt que nous avons, on ne comprend pas la signature du vice-président.
John Kerry dit que cette nouvelle candidature, c'est une violation de la constitution du Burundi.
Ah, John Kerry, le secrétaire d'État américain, lui il est diplomate, je ne crois pas qu'il puisse décider en lieu et place de la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle du Burundi est chargé de juger les affaires constitutionnelles du Burundi. Donc, ce qu'il a dit, c'est son opinion.
Monsieur Charles Ndagi Djimana, président de la Cour constitutionnelle du Burundi.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Ici Washington, Camille Grodidier avec vous. Le secrétaire d'État américain John Kerry achève aujourd'hui à Djibouti son voyage en Afrique de l'Est qui l'a conduit au Kenya mais également en Somalie. Timothée Donangmaï s'est entretenu à ce sujet avec le professeur Walid Fares de la National Defense University de Washington. Il revient sur la visite surprise hautement symbolique de M. Kerry à Mogadiscio.
Les États-Unis ont développé des politiques d'appui au gouvernement somalien contre les radicaux, contre Al-Qaïda et les Shabab depuis des années. Mais c'est la première fois qu'un officiel de ce niveau-là arrive en Somalie. C'est un signe de solidarité avec le gouvernement et le peuple somalien contre les violences, surtout après ce qui s'est passé au Kenya il y a quelques semaines.
Quel est le bilan de l'appui américain aux efforts contre Al-Shabab en Somalie?
Vous voyez, il y a une politique de l'administration qui est aussi appuyée par le Congrès de soutenir le gouvernement somalien, mais aussi le gouvernement de la région contre l'expansion d'Al-Qaïda, qui en fait est Al-Shabaab dans la région, pas seulement au point de vue militaire, mais aussi au point de vue social, économique et surtout diplomatique, point de vue africain.
Au programme de cette visite africaine du secrétaire d'État Kerry, le Kenya donc, mais aussi Djibouti, quelle est l'importance stratégique de ces pays pour les États-Unis?
Vous voyez, c'est toute la région qui se tire de Djibouti, où les États-Unis ont un intérêt stratégique et une présence militaire. jusqu'au Kenya et les pays avoisinants. C'est une région qui a été menacée d'une part par les Shabab, mais aussi qui a été soumise à des épreuves de guerre civile et de tensions internes. Alors, Washington essaye de démontrer une solidarité avec ses gouvernements africains, mais au-delà des gouvernements aussi de lancer un appel aux sociétés civiles de cette région-là. Alors, c'est un voyage qui est très important, mais ce n'est que le début.
Quelle est la réaction des gouvernements de la région à ces efforts de Washington?
Les gouvernements de la région, bien sûr, non seulement appuient cette visite, mais ils l'attendent depuis un bon bout de temps. Donc, la visite du secrétaire d'État est importante pour les États-Unis. Pour les peuples de la région, certainement, ils veulent voir l'Amérique tout à fait engagée. Et les gouvernements, certainement, veulent démontrer à leur peuple qu'ils ont une bonne relation avec Washington. Et donc, cette visite va essayer de soutenir les trois objectifs mentionnés.
Lors de son passage au Kenya, le secrétaire d'État John Kerry a également entamé des préparatifs pour la visite du président Barack Obama. Quelle va être la portée de cette visite du chef de l'exécutif?
Bien sûr, ça va être une visite historique. Le président Obama qui arrive sur sa terre ancestrale, il a fait déjà une visite, comme nous le savons, quand il était déjà sénateur. Donc, c'est l'autre côté de son mandat présidentiel qui va se terminer dans un an et quelques mois. Mais aussi, cela nous donne un peu une vue sur le rôle qu'il va jouer après la fin du mandat présidentiel.
Le professeur Walid Fares de la National Defense University de Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Camille Grosdidier qui vous accompagne depuis Washington. La situation reste très tendue dans le nord du Mali. Après les localités de Goundam, Léré et Binta Gungu, les rebelles ont attaqué mardi le cercle de Ténékoun dans la région de Mopti. Le bilan est le suivant. Côté Fama, un mort et trois blessés. Côté rebelles, on parle d'une dizaine de morts et de plusieurs blessés. D'importants matériels de guerre ont été saisis par les forces armées et de sécurité. Le bilan provisoire est d'un militaire malien tué et les corps de quatre assaillants ont été retrouvés après les combats. La peur a gagné plusieurs localités du Mali susceptibles d'être attaquées par les rebelles. C'est pourquoi les responsables des communautés du nord du Mali appellent au calme, à la paix et à la stabilité. Tout cela se passe à quelques jours de la signature de l'accord de paix, un document que les groupes armés refusent de paraffer. Est-ce que la CMA signera l'accord? Eh bien, des éléments de réponse avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Signera, signera pas. La question est sur toutes les lèvres à Bamako. Beaucoup de Maliens pensent que la CMA ne signera pas l'accord d'Alger. D'autres pensent que les acquis vers la paix doivent être consolidés. Colonel Hassan Ag Mehdi du Front populaire de l'Azawad.
Il est très important aujourd'hui que chacun comprenne que le plus brave, c'est celui qui a pu aider ses pays à consolider ce qu'il a acquis. Le plus intelligent, c'est celui qui revient à se dire la vérité lui-même en faisant comprendre que les Maliens n'ont plus besoin de se voir périr pour des futilités. Que les Maliens arrêtent de se provoquer, qu'ils arrêtent de se pourchasser. C'est le moment d'amener chacun son apport à la construction de ces pays. C'est le moment d'avoir le courage de s'asseoir et de dire ce qu'on pense.
Le chef de la tribu Kel Antassar est en colère. Il ne comprend pas pourquoi les rebelles s'attaquent aux populations du cercle de Goundam. Abdul Majib Ag Mohamed dit Nasser.
J'ai dit aux gens de la CMA que ce n'est pas Binta Gungu qui a attaqué Menaka. Ce n'est pas Léré qui a attaqué Menaka. Ce n'est pas Goundam qui a attaqué Léré. C'est Gacha qui a attaqué Menaka. S'ils sont hommes, ils n'ont qu'à aller voir Menaka et affronter les gens de Gacha au lieu de s'attaquer à des pauvres populations de Binta Gungu, de Léré, là où leurs parents viennent se ravitailler tous les jours. S'ils sont hommes, non qu'à aller voir les gens de Gacha, ça ne sert à rien quoi, il faut qu'ils arrêtent. Nous, on veut la paix parce qu'on sait qu'il n'y aura rien dans ce pays-là s'il n'y a pas de paix.
Les partis Sadi comptent aller à Kidal pour rencontrer les responsables de la CMA car elle ne veut pas signer l'accord le 15 mai prochain. Oumar Mariko, président du parti Sadi.
L'accord pour le 15, mais nous, on a des informations déjà que la CMA ne va pas signer le 15. Et un accord entre la plateforme et l'État malien ne veut absolument rien dire. Est-ce que c'est le seul moyen pour nous à mettre un point de départ pour la paix? Nous pensons que notre lettre
peut-être est suffisamment plus responsable par rapport à mettre en pratique plutôt, qui peut nous rapprocher beaucoup plus de la paix.
Pour l'ex-rebelle Hassan Agmeidi, la signature de l'accord d'Alger du 15 mai prochain est inévitable.
Plus rien ne peut nous prendre en otage aujourd'hui. Si les Maliens sont déterminés, c'est ceux qui s'attaquent, c'est ceux qui s'entretient. Ce n'est que des Maliens qui le comprennent. Du moment où les Maliens sont déterminés à aller vers la signature, je ne vois pas ce qui peut les perturber. Nous allons à cette signature et nous allons tout droit. En aucun prétexte on ne peut comprendre qu'il y ait des barrages ou qu'il y ait des obstacles qui peuvent nous empêcher d'aboutir à cette solution.
En tout cas, le combat continue sur le terrain. C'est mardi 5 avril, les rebelles ont attaqué le cercle de Ténékou. Le bilan est d'un mort et 3 blessés du côté des militaires maliens, alors que les rebelles ont perdu 10 hommes et plusieurs blessés. D'importants matériels de guerre ont été saisis par les forces armées et de sécurité du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et pour finir cette édition du Monde aujourd'hui, eh bien la ville de Gao, sur le fleuve Niger, est en délestage depuis bientôt 5 jours. La nouvelle centrale thermique, qui a moins d'une année, ne fonctionne plus alors que les températures avoisinent les 50 degrés Celsius à l'ombre. Les Maliens souffrent de la situation, signale notre correspondant Boubacar Touré à Gao.
Voilà 5 jours que la ville de Gao connaît à nouveau un délestage dans la distribution d'électricité, alors que la société Énergie de Gao a été dotée d'une nouvelle centrale thermique il y a moins de 1 an. Comment apprécie-t-on la situation dans une zone où le mercure affiche très souvent 50 degrés à l'ombre?
Voilà, ça fait 3 ou 4 jours comme ça qu'on ne recevait pas de courant et qu'on sort. Donc vraiment, nous, on souhaite que vraiment, s'ils peuvent faire quelque chose mieux, vraiment, ça nous arrange beaucoup.
Dans une grande ville, quand même, ça dit le courant, l'électricité, c'est une nécessité. À l'heure où nous sommes, toute la population de Gao souffre du manque d'électricité. Surtout à l'approche du mois de Ramadan. Donc maintenant, c'est une autre chose, quoi.
Omar Maïga est un ouvrier qui travaille avec le courant. Il a des difficultés énormes pour nourrir sa famille.
Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de travail, il y a beaucoup. Il y a des courants, il y a quelque chose qu'on mange. Il y a 4 jours, il n'y a pas de courant.
4 jours, tu ne travailles pas?
Il n'y a pas de travail.
Et comment tu fais pour nourrir ta famille si tu ne travailles pas?
Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de solution.
Pour mieux comprendre la situation, nous avons approché le directeur de la société Énergie, Daouda Cham. Il nous explique les difficultés auxquelles ils sont confrontés actuellement.
Depuis un certain temps, la continuité des services était assurée par la nouvelle centrale qui a été construite il n'y a pas très longtemps, à la faveur de la reprise. Cette nouvelle centrale, aujourd'hui, on est à une disponibilité de 0 groupe sur 4. Mais les 4 groupes ne sont pas tombés en panne en même temps. Ils n'étaient jamais ensemble disponibles. Il y a un qui partait, l'autre présentait d'autres problèmes. On enlève des pièces d'un groupe pour les mettre sur d'autres.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré ce jeudi à la police américaine. Une nouvelle fois, un Africain-Américain est mort entre les mains de la police, cette fois à Baltimore. L'histoire se répète donc dans l'Amérique post-raciale de Barack Obama. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Peace Africa, ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. Au micro, Camille Grosdidier, je vous invite à nous retrouver sur Facebook et bien sûr sur notre site internet voaafrique.com. Et entre-temps, nous vous souhaitons tous une très très bonne journée.
cœur de l'info.